7h, c'est le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Pas de précipitation pour légiférer sur la PMA pour toutes. Le sujet est sensible, explique le gouvernement. Ce pourrait donc être un projet de loi venu de l'exécutif plutôt qu'une proposition de loi d'un député à examiner l'année prochaine, pas avant.
Un collaborateur d'Emmanuel Macron a été reconnu sur une vidéo datant du 1er mai. On l'y voit frappé, violenté deux manifestants. Il a été suspendu 15 jours par l'Élysée, mais la controverse est lancée, vous l'entendrez.
Dans cette édition encore, les 39 vent de la révolution sandiniste au Nicaragua. Daniel Ortega est depuis passé de héros à président autoritaire. Et puis investir au Niger pour donner envie aux migrants d'y rester, cela semble fonctionner. L'Union européenne veut étendre l'idée à tout le Sahel. Face à une majorité divisée, le gouvernement temporise donc. Un projet de loi sur la procréation médicalement assistée pour toutes sera bien présenté, mais pour un examen à l'Assemblée début 2019. Dixit le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, c'est une confirmation donc. Alors que chez les députés, certains s'impatientent. Un élu La République En Marche a même rédigé une proposition de loi qu'il pourrait déposer à l'Assemblée aujourd'hui, Stéphane Robert.
C'est le député La République En Marche des Deux-Sèvres, Guillaume Chiche, qui a décidé de prendre les devants afin que sa proposition de loi sur la PMA soit examinée dès l'automne.
La loi, c'est l'ouverture pour toutes les femmes et donc pour les couples lesbiens et les femmes célibataires d'un accès à la procréation médicalement assistée. Nous n'ouvrons pas vers la légalisation de la GPA sur le territoire national français. Pour autant, il y a dans la proposition de loi que je porte la reconnaissance par la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger.
Seulement, pour le moment, rien n'a encore été décidé par le gouvernement, qui a fait part qu'il n'était pas question de bouleverser le calendrier. Il faut d'abord attendre l'avis du comité sur la bioéthique en septembre, avant le dépôt de plusieurs projets de loi prévus en fin d'année. Et du coup, les présidents et porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée sont montés au créneau, Richard Ferrand et Gilles Legendre.
Moi, ce qui m'importe et ce qui importe à notre groupe, c'est que l'engagement présidentiel qui est le nôtre soit concrétisé, soit réalisé. Mais ce n'est pas une course de vitesse.
Le moment venu, probablement à la fin de l'année 2018 ou dans le courant de l'année 2019, nous y verrons plus clair. Ce qui importe, c'est que le projet soit travaillé avec le plus grand soin.
Le problème, selon l'exécutif, est que l'affaire est extrêmement sensible. Elle aurait même déjà réveillé les réseaux de la Manif pour tous sur Internet. Au point que le député Guillaume Chiche réfléchit à ne peut-être pas déposer sa proposition de loi. Il prendra sa décision dans la journée.
À l'Assemblée nationale toujours, les députés ont voté cette nuit l'inscription du service national dans la Constitution. Cela doit permettre ensuite de mettre en œuvre le service national universel voulu par Emmanuel Macron. Le chef de l'État, probablement embarrassé après qu'un de ses collaborateurs ait violenté un manifestant, c'était le 1er mai dernier. L'Élysée a été mise au courant dans la foulée et a mis à pied ce chargé de mission, Alexandre Benalla. Son identité, en revanche, n'a été dévoilée qu'hier soir par le quotidien Le Monde, qui a identifié cet homme sur une vidéo édifiante. Il porte un casque anti-émeute, comme les CRS. Cette vidéo a été tournée à Paris, place de la Contrescarpe, dans le quartier latin. Julie-Marie Lecomte.
Sur les images, un homme en civil, casqué, exfiltre d'abord une jeune femme d'un groupe de manifestants, puis revient s'en prendre à un garçon déjà mis à terre par les forces de l'ordre. Coup de pied, coup sur la tête, les CRS laissent faire sous le regard incrédule de celui qui filme.
Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre! Regardez bien, il l'a tabassé par terre!
La tête de cet homme à l'Élysée, on la connaît, c'est celle du responsable de la sécurité du candidat Macron pendant la campagne. Après la victoire, il est embauché au palais comme chargé de mission, rattaché au chef de cabinet pour aider à organiser les déplacements du président. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron avoue au Monde qu'il a vu la vidéo. Il a même alerté le chef de l'État en personne alors qu'il était en voyage officiel en Australie. Emmanuel Macron lui a demandé de prendre des sanctions si les faits étaient avérés. Convoqué, l'intéressé a reconnu, selon l'Élysée, qu'il était bien l'homme de la vidéo. 15 jours de mise à pied, une rétrogradation opérationnelle puisqu'il ne sort plus du château tout en conservant son titre de chargé de mission. Compte tenu des informations disponibles, la sanction semblait idoine, commentait hier soir l'entourage d'Emmanuel Macron.
Et déjà, l'opposition demande des explications et des sanctions. Même la majorité rasait les murs hier à l'Assemblée nationale. La garde à vue du député La République En Marche a été levée hier soir. Garde à vue de Thierry Soler, sur avis médical, précise le parquet de Nanterre. Thierry Soler est soupçonné de fraude fiscale lorsqu'il était conseiller général des Hauts-de-Seine et qu'il travaillait en parallèle comme conseiller dans le privé.
Il est 7h05 sur France Culture. Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, va célébrer aujourd'hui le 39e anniversaire de la révolution sandiniste.
Révolution qui mit fin à la dictature de Somoza à la fin des années 70 au Nicaragua. Comme tous les ans, des célébrations auront lieu dans la capitale, Managua. Mais cette année, cet anniversaire aura un goût amer pour la majorité des habitants. Beaucoup dénoncent en ce moment une confiscation du pouvoir de la part du président Daniel Ortega. Les manifestations réprimées dans la violence durent depuis 3 mois et ont fait plus de 280 morts. On est bien loin donc des espoirs de la révolution il y a 39 ans, Valérie Crova.
Le 19 juillet 1979, des milliers de jeunes guérilleros entrent à Managua, applaudis par une foule immense venue célébrer la fin du régime autoritaire de Somoza. La révolution sandiniste triomphe avec ses idéaux d'inspiration marxiste-léniniste. Il est question d'aide aux plus pauvres, de réformes agraires, d'alphabétisation, de nationalisation. Les grands propriétaires terriens sont expropriés. Un service militaire obligatoire est instauré, une mesure qui rencontre une forte position dans les campagnes et favorise l'émergence d'un mouvement armé, les Contras, financé par l'administration Reagan. Les sandinistes forment quant à eux leur propre armée et recrutent parmi les jeunes. C'est toute une génération qui prendra fait et cause pour Daniel Ortega, devenu un héros. Le pays se déchire, la guerre civile fera des milliers de victimes. En 1990, les sandinistes perdent les élections et passent dans l'opposition, jusqu'en 2006 où Daniel Ortega retrouve le fauteuil de président. Ils mettent en place des programmes sociaux financés par les pétrodollars d'Hugo Chavez. Au fil du temps, il optera pour une économie plus libérale et sera réélu en 2011 puis en 2016, non sans avoir fait modifier la constitution. Estimant que l'ancien guérillero et son épouse Rosario ont abandonné les principes historiques du parti, ses anciens compagnons de route lui ont pour la plupart tourné le dos, mais Daniel Ortega peut encore compter sur son clan, composé des membres les plus intransigeants du front sandiniste.
À minuit tout à l'heure, l'état d'urgence a été levé en Turquie, 2 ans après le coup d'état manqué qui avait failli renverser le pouvoir turc. Recep Tayyip Erdogan avait promis cette levée lors de la campagne présidentielle le mois dernier. Il a donc été réélu et met fin à cet état d'urgence. Et c'est peut-être la levée de l'état d'urgence en Turquie et suite à cette levée que Donald Trump a demandé via Twitter hier la libération du pasteur américain Andrew Brunson, jugé pour terrorisme en Turquie. Un otage, écrit le président américain, qui demande donc à son homologue turc Erdogan d'œuvrer pour son retour aux États-Unis. Nous évoquions ici même mardi matin la mission du Parlement européen au Niger dans le cadre de l'Alliance du Sahel. Accompagné de chefs d'entreprise et de députés, il y a évoqué des projets sociétaux, environnementaux à mettre en place au Niger. Le projet aussi de contenir le flux de migrants en recréant un tissu économique au Niger. Cela pourrait dissuader les candidats au départ vers l'Europe, Johanna Hochstein.
Le nombre de migrants qui a quitté le Niger pour rejoindre la Libye avant de tenter la traversée vers l'Europe a été réduit de 95% ces 2 dernières années, notamment grâce aux efforts menés par le gouvernement nigérien avec le soutien de l'Europe pour mieux contrôler la frontière avec la Libye. Mais cela ne suffit pas selon le président du Parlement européen, Antonio Tajani.
Il faut avoir une stratégie de croissance économique, il faut avoir une stratégie pour le développement. Et en 2050, nous aurons 2,5 milliards d'Africains. Et on ne pourra pas bloquer avec la police ou avec l'armée l'immigration. Voilà pourquoi il faut intervenir tout de suite.
Il faut donc, selon le président du Parlement, améliorer les conditions de vie des Nigériens pour les dissuader de venir en Europe. Stéphane Redon, responsable pour l'export de la société française Suna Design, participe à cette mission économique. Il essaie de s'implanter au Niger dans le secteur de l'éclairage public.
On aspire à que ces projets, avec ces nouvelles technologies, créent aussi du travail localement, du travail au niveau de l'installation, du travail au niveau de la maintenance et du travail au niveau de la fabrication.
Pour le président du Niger, l'implantation d'entreprises européennes sur le territoire nigérien est indispensable pour faire face aux défis de son pays, sécuritaire, migratoire, mais aussi démographique. Mahamadou Issoufou.
Certes, il y a les ressources publiques nationales, il y a l'aide publique au développement, mais tout cela n'est pas suffisant. Il faut nécessairement un investissement massif du secteur privé.
Une initiative qui doit être, selon les autorités nigériennes et européennes, élargie à l'ensemble des pays du Sahel.
Johanna Hochstein pour France Culture. Les températures grimpent ce jeudi en France sous un grand soleil avant l'arrivée de l'orage par l'Atlantique Sud. Comptez par exemple 23 degrés ce matin à Rennes, 24 à Lille, déjà 26 à Paris-Besançon et à Bordeaux, 27 à Lyon-Périgueux, 30 degrés ce matin en bord de Méditerranée.